OK. Fait qu'on va étudier Lamentation. Aujourd'hui, on va regarder le chapitre 1 et on va faire les 11 premiers versets. C'est vraiment comme une introduction au livre de Lamentation de Jérémie. Et quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes. Ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humiliée à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. La fille de Sion a perdu toute sa gloire, ses chefs sont comme des serfs, qui ne trouve point de pâture et qui fuit sans force devant celui qui les chasse. Au jour de sa détresse et de sa misère, Jérusalem s'est souvenue de tous les biens, dès longtemps son partage, quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Ses ennemis l'ont vu et ils ont ri de sa chute. Jérusalem a multiplié ses péchés, c'est pourquoi elle est un objet d'aversion. Tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité. Elle-même soupire et détourne la face. La souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. « Vois ma misère, ô Éternel, quelle arrogance chez l'ennemi. L'oppresseur a étendu la main sur tout ce qu'elle avait de précieux. Elle va pénétrer dans son sanctuaire, elle a vu pénétrer dans son sanctuaire les nations auxquelles tu avais défendu d'entrer dans ton assemblée. Tout ton peuple soupire, il cherche du pain et... ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture. Vois, Éternel, regarde comme je suis avili. Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Alors, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta présence, nous voulons commencer à étudier ce livre de Lamentation qui est très riche d'enseignements. Tu nous dis dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, tu nous dis que l'Ancien Testament nous a été donné pour notre instruction, il nous a été donné aussi pour nous servir d'exemple. Aussi, Seigneur, permet qu'on découvre dans ce bref passage qu'on va étudier aujourd'hui, comment le péché peut amener des jugements graves de ta part. Alors, Seigneur, permet qu'on soit attentif à ces choses-là, et comme le dit le Nouveau Testament, qu'on apprenne les leçons que tu veux nous enseigner là-dedans, et que tu nous montres des exemples de ce que tu es, que ce que tu peux faire lorsque le peuple de Dieu se maintient dans le péché malgré les avertissements. Alors, Seigneur, on te demande de bénir ce moment d'étude et permet qu'on retienne les principes qu'on se doit de retenir et de les mettre en application dans nos vies de tous les jours. On te le demande en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, le titre que j'ai donné au sermon d'aujourd'hui, c'est « Jérusalem hurle sa souffrance, sa détresse et sa misère ». C'est vraiment le cas de dire, quand on se prend la peine d'analyser chacun des versets, on voit que vraiment Judas est dans un état déplorable. La ville de Jérusalem est complètement détruite. C'est comme, on a de la misère à s'imaginer ça parce qu'on n'a jamais vécu ça au Canada. Des villes complètement rasées, quand elles avaient été conquises par Babylone, ils ont complètement brisé les murs, ils ont complètement brisé toutes les bâtisses d'importance, ils ont brisé surtout le temple qui était leur lieu d'assemblement et d'adoration. Et on n'a pas d'idée jusqu'à quel point la ville s'était vidée de ses habitants à cause du fait que les gens fuyaient, cherchaient à s'en aller dans d'autres pays. Et on n'a pas d'idée jusqu'à quel point Jérémie, on pense que c'est Jérémie qui étudie les lamentations de Jérémie, était dans un état, son état d'âme intérieur était vraiment d'une grande tristesse, d'une grande, très, très, très grande tristesse, de voir comment Dieu, même si on est son peuple, peut amener des jugements sévères. Si on regarde la situation dans le monde actuellement, même au Québec, au Canada, si on se met à regarder les péchés qui sont commis, et souvent qu'on a dénoncé, il ne faut pas quand même se mettre trop pire, mais il reste qu'on aurait peut-être pu agir avec plus de fermeté pour avertir les gouvernements, on n'était pas d'accord avec ça. Si ça arrive, prenons juste l'exemple des avortements. Actuellement, je ne connais pas les chiffres, mais je suis convaincu que si je les savais, pensez que un avortement, c'est un meurtre. Et il y a des milliers, je dirais même peut-être des centaines de milliers de meurtres au Canada. Et il vient un temps qu'on est tellement habitué à ça que, on, je dirais pas que ça nous laisse indifférent. On est contre ça, à cause de la Bible. Mais est-ce que on se bat assez fort? C'est peut-être une des leçons qu'on apprend de Lamentation. Le peuple de Juda avait été à de multiples reprises. Dieu leur avait envoyé des personnes, des prophètes pour leur dire, vous êtes dans le péché, et là, si vous vous enlignez pas, vous allez attirer un jugement terrible sur la ville. Et les gens continuaient. Mais je pense que le Seigneur, même dans la situation actuelle qu'on vit au Québec, au Canada, le Seigneur nous en envoie aussi des avertissements. Et si on n'en tient pas compte, c'est facile de tout dire, si la société va mal actuellement, OK, c'est des païens, eux autres, qui font des péchés, puis ils tiennent pas compte de Dieu. Mais nous, à l'intérieur de ça, le peuple de Dieu, est-ce qu'on réagit avec la force et l'intensité et la perspicacité et l'endurance de faire longtemps? On est rendu, je pense, qu'on a perdu un petit peu notre sens de la combativité face à ça. Et il y a un très grave danger à ça. Et le danger, c'est justement ce qu'on est en train de regarder ce matin. Quand Dieu est patient, puis nous envoie des avertissements, puis on n'en tient pas compte, on peut se ramasser dans des situations, on n'a pas connu ça au Québec. Les Européens, à l'autre, quand ils lisent un texte comme ça, ils savent c'est quoi une ville détruite. Après, comme dans le temps de la guerre, Berlin était complètement rasé. Quand on voit des images de ça, on se dit, quand tu étais un Allemand, tu voyais le résultat de ton action, ça devait être terrible. Mais ça s'est passé dans des pays en Europe, mais ça peut se passer chez nous. C'est ça qu'on semble oublier. Le Seigneur peut permettre des jugements aussi sévères, même dans notre propre pays. Alors, soyons attentifs aux signes que le Seigneur nous donne, de faire attention, de ne pas laisser le péché, ou je l'appellerais le péché social, parce qu'il y a deux livres dans les Écritures qui parlent de souffrance. C'est Job. Job parle de la souffrance personnelle, mais Lamentation parle de la souffrance collective, péché social. Alors, ce qu'on va regarder ce matin, dans les versets 1 à 3, on va regarder la misère de la solitude, de la servitude et de la dévastation. Le livre de Lamentation a été traditionnellement attribué au prophète Jérémie. En assumant que Jérémie est l'auteur du livre, il est probable qu'il fût écrit peu après la chute de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor en vers 586 avant Jésus-Christ. La présence des Israélites dans le pays de la promesse dépendait de leur respect des clauses de l'alliance conclue avec Dieu au Sinaï. On pourra aller lire les versets, on n'ira pas ce matin parce que je vais juste les mentionner, ça sera à vous, si jamais ça vous intéresse, de télécharger les notes de sermon et d'aller voir les versets. C'est toujours une bonne chose. Alors, en dépit de la répétition des actes coupables de rébellion, d'idolâtrie et d'immoralité, l'Éternel avait constamment et fidèlement invité le peuple à se repentir et à renouer la relation avec lui. Alors, c'est pas que le peuple avait prêté à partir. C'est de dire qu'on regarde une affaire de même, on dit « Ah, tout détruire la ville, les gens se sauvaient, ils s'en allaient dans d'autres pays, ils ne voulaient plus rester là, tout le monde souffrait de la faim, de voir tout le désastre qui était autour d'eux. » Mais on ne peut pas dire « Seigneur, il ne nous a pas averti. » Le Seigneur, avant d'envoyer des jugements aussi sévères que ça, il nous avertit toujours par des prophètes, par des prédications, par toutes sortes de moyens. Alors, on a vraiment intérêt à en tenir compte. Alors, après la mort du roi Josias, les habitants du petit royaume de Juda, les derniers Israélites encore dans le pays promis, abordèrent la dernière pente glissante menant vers la destruction. Maintenant, après 23 années de tourmente et de tragédie, après les règnes de 4 rois, après 3 invasions des Babyloniens, la destruction est complète. Je sais pas si vous... faut essayer de s'imaginer, là. On est dans la ville de Jérusalem. On a un petit peu une idée de ce que ça pouvait avoir l'air à l'époque, même encore aujourd'hui avec ce qui reste de vestiges. Du jour au lendemain. Ben, pas du jour au lendemain, ça a dû prendre un peu de temps à détruire, là. Mais les hommes ont toujours été champions dans la destruction. Alors, détruire la ville, détruire les murs, détruire les bâtisses, détruire le temple, et là, la quantité de morts qu'il y a eu durant cette période-là, ça a dû être épouvantable, et de voir aussi tous ceux que tu aimes décider de quitter le pays, parce qu'ils n'en peuvent plus de regarder ça, c'est tellement souffrant. Alors, la nation est mutilée et dispersée. La ville de Jérusalem gît totalement en ruine. Je dirais que pour les Européens qui lisent ce texte-là, peut-être que pour eux autres, ça a une signification qui est beaucoup plus grande et complète que nous. On connaît pas ça. On n'a jamais vécu des choses semblables au Canada. Même aux États-Unis, c'est rien de comparable. Une ville détruite jusqu'à ses rasements, ils ont tout brûlé, ils ont tout jeté à terre, et les endroits qu'eux trouvaient les plus respectables, leurs maisons, leurs lieux de culte, tout. T'arrives le lendemain, tout est à terre, ça sent la fumée, les gens sont dans un état moral déplorable, sont déprimés. Faut essayer de se mettre dans leur peau pour comprendre un peu ce qui se passait. Alors, le livre de Lamentations a été écrit après la troisième invasion de Jérusalem par les armées babyloniennes du roi Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ et après les deux invasions qu'il y avait eues avant en 605 et en 597 avant Jésus-Christ. Lors de la dernière invasion, Jérusalem fut pillée, le temple détruit, ainsi que le palais royal et toutes les maisons de quelque importance et les murs de la ville détruits. C'est difficile de se mettre dans leur peau, essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vivaient à l'époque. Alors, Jérémie y avait fidèlement transmis et consigné par écrit les prophéties que Dieu lui avait confiées concernant le jugement de la nation. On pourrait aller voir, on ira pas aller voir les passages, mais on peut voir que Dieu avait averti. Jérémie 36, verset 2, verset 27, verset 28. Le temps de leur accomplissement intégral était arrivé. Quand le Seigneur fait un avertissement, il faut regarder ce qu'il a dit. Puis, il faut regarder aussi le fait qu'il dit, je vous ai envoyé des personnes pour vous avertir, ils n'en ont pas tenu compte. Mais quand le Seigneur envoie son jugement, parfois, le jugement est d'une sévérité telle qu'on a peine à croire que ça peut nous arriver à nous. Au Canada, là, on est habitué de vivre dans le luxe. On est habitué. Même les pauvres, les plans de luxe, on les compare à ceux qui sont en mission, là, à Haïti, en Afrique. Eux, ils vivent dans la pauvreté. Mais nous, on n'est pas habitués à ça. Si du jour au lendemain, le Seigneur enverrait un jugement aussi sévère sur nous, est-ce qu'on serait dans un état spirituel capable de tolérer la situation? Ou si on ne ferait pas comme eux, tomber dans la dépression la plus totale? Je pense qu'on ferait comme eux. Alors, comme je vous disais tantôt, il y a deux livres dans l'Ancien Testament qui traitent principalement du problème de la souffrance. Il y a Job qui traite du problème de la souffrance personnelle. Et il y a Lamentation qui traite du problème de la souffrance nationale. Parce que là, vraiment, c'est pas juste un individu, deux individus, toute la nation. Il n'y en a même pas un, les prêtres, les sacrificateurs, peu importe ta classe sociale, tu étais dans la misère totale et dans la souffrance totale. Alors, la souffrance nationale, il ne faut pas penser que pour nous, nous autres, c'est pas pareil, au Canada, ça n'arrivera jamais. Oh, attention. Alors, on va regarder les trois premiers versets. C'est vraiment la misère de la solitude, de la servitude et aussi de la dévastation. La solitude, c'est qu'à partir du moment où Dieu aura un jugement aussi sévère, il y a beaucoup de monde qui ont sorti de la ville et ils se ramassaient des beaucoup plus petits groupes. Il y a eu l'immigration, les gens s'en allaient. Ils ne voulaient pas vivre ça, donc ils s'en allaient dans des pays. Ils essayaient de se sauver dans des pays autour d'eux. Donc, quand ça dit dans le verset 1 à 3, comment est-elle assise? Et le premier mot qui est mentionné, solitaire. Elle était habituée d'avoir des amis, elle était habituée de se faire courtiser, elle était même en situation sociale dominante. Et là, ça parle, est-elle solitaire la ville si peuplée? Une ville très peuplée qui du jour au lendemain tombe, il n'y a presque plus d'habitants dedans. Celle qui était grande entre les nations est semblable à une veuve. La princesse des provinces est devenue tributaire. La servitude, quand on devient tributaire, quand on est habitué de dominer, c'est que c'est les autres nations qui nous envoient des biens, de l'argent, de l'or, et toutes sortes d'autres biens. Mais quand on devient tributaire, là, c'est plus nous qui reçoit, c'est nous qui donne. Fait que le petit peu qui reste, il est en train de le donner. Et dans le verset 2, pour nous montrer sa solitude, sa servitude, sa dévastation, ça dit « elle pleure durant la nuit ». Quand une population est rendue que durant la nuit, juste à penser ce qui est autour d'eux, à voir ce qui est autour d'eux, passe le temps à pleurer. On sait ce que c'est quand on est triste, hein? C'est quand on pleure. Des fois, on pleure, mais on ne pleure pas longtemps parce que nous autres, on a toujours des choses qui nous arrivent. Mais si la ville de Sherbrooke est détruite, ça sent la fumée partout, le monde se pousse de Sherbrooke, les lieux de culte sont détruits, tout sera détruit. Je pense qu'on pleurait, nous autres aussi. Ça dit, tous ses amis ont agi perfidement contre elle. Ça, c'est une alors qu'ils étaient dominants, c'est ceux qui ont des amis, mais quand que le malheur arrive, on dirait que le malheur envoie les amis. Tu n'as plus d'amis. Agis perfidement. Quand on dit de quelqu'un qui est perfide, c'est que quelqu'un qui était bien disposé à ton égard devient ton ennemi cruel, devient qu'il t'abandonne. Il dit, ils ont agi perfidement contre elle, ils sont devenus ses ennemis. Imaginez-vous la belle, tes amis qui deviennent tes ennemis. On a toujours connu ça, nous aussi, au Québec, au Canada. On a un groupe d'amis, puis du jour au lendemain, il arriverait un fléau social, et ça ne sera plus nos amis, ils deviendraient nos ennemis. Judas s'est exilé durant l'affliction. L'exil. Quand il arrive des choses sociales d'une importance telle, qu'est-ce que les gens font? Ils se poussent, ils se sauvent, ils ne veulent pas vivre ça. Alors, mais quand ça arrive, que le jugement de Dieu arrive, tu vas peut-être te pousser, mais tu ne t'arrangeras pas, ta situation ne sera pas arrangée. Et ça dit, c'est exilé devant l'affliction et la grandeur de sa servitude. Il demeure au milieu des nations. Et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont saisi d'en avoir. Tu demeures, eux, c'est un peuple saint qui cherchait à se séparer des nations. Là, ils ont entendu qu'ils vivent parmi les nations. C'est sûr qu'un peuple saint qui est habitué de vivre dans une certaine séparation avec le monde, qui vit dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il est malheureux. Il ne peut pas faire autrement qu'être malheureux. Alors, ceux qui ont quelques dispositions à pleurer, avec ceux qui pleurent, ne devraient guère pouvoir s'empêcher de pleurer à la lecture de ces versets, tant les lamentations ici sont très pathétiques. Les misères de Jérusalem sont décrites comme très pressantes et par de nombreuses circonstances très aggravées. Faisons le point sur ces misères. Les malheurs de Jérusalem s'expriment ici dans les versets 1 à 3 dans le domaine politique et civil. Quand tu es une nation, tu contrôles tout, puis qu'à un moment donné arrive une situation inverse, que tout tombe à l'eau, comme on dit, le malheur dans l'esprit des gens, ça devait être épouvantable. Alors la solitude, ça dit elle qui était si peuplée auparavant. Alors quand Jérusalem devient le centre de l'adoration, les gens montaient à Jérusalem pour adorer. Maintenant, c'est fini, ça. Il n'y a plus de monde qui monte à Jérusalem. Il n'y a plus d'adoration. Les gens sont complètement dérangés devant toute la désolation qui les entoure. Une ville qui était peuplée est maintenant dépeuplée. Toute la ville est en ruine. On en parle avec étonnement parce que quand on dit « Comment était la cise solitaire? » C'est comme si devant la situation, il regarde ça et ça se peut-tu? Ça se peut-tu que ça nous soit arrivé à nous autres? Mais nous, s'il y arriverait un malheur social de l'ampleur de ce que le Seigneur a envoyé à Judas, je vous dis, ça ne serait pas beau. Ça sent la solitude. Une ville qui est peuplée, qui est dépeuplée, la ville qui est en ruine, on en parle avec étonnement. Qui aurait pensé qu'on en arriverait là un jour? On cherche à comprendre. Qu'est-ce qui nous a emmené là? On verse dans la lamentation. Bien sûr, on se lamente, mais là, je pense que la première chose que le peuple d'Israël, le peuple de Juda aurait dû faire, qu'est-ce qui nous a emmené là? Il pose des bonnes questions, mais il répond pas. Mais ils savent, dans le fond, c'est pourquoi. Le veuvage. On parle de veuvage. Souvent, les Écritures utilisent l'image du mari et de la femme. Le mari, dans le temps, c'est le roi, c'est le roi, c'est Dieu lui-même. Quand on parle de veuvage, c'est comme si le mari est mort, il n'est plus là, du moins, il ne s'occupe plus de sa femme du tout. Comme s'il l'a abandonné. Il a décidé qu'il ne s'occupait plus d'elle. Alors, le roi et le roi mari, c'est comme s'il avait donné sa lettre de divorce à son épouse, à son peuple. Des fois, on se dit, ben, « Seigneur, ben, trop bon, il ne fera jamais d'affaires de même. » Pas sûr. Alors, comment est-elle devenue veuve? Son roi, qui était son mari, l'a abandonné et il est parti. Si Dieu l'a quitté, il lui a donné une lettre de divorce. Elle est vidée de ses enfants, solitaire et triste comme une veuve. Une veuve, c'est quoi? Une femme qui perd son mari, mais elle a des enfants. Elle peut être pas mal triste que ça lui arrive. Et l'humiliation, parce que ça dit, la princesse des provinces, autrement dit, elle avait un rôle de domination, un rôle de richesse, un rôle d'influence autour d'elle. Et là, ça dit, la princesse des provinces est devenue tributaire. Ça veut dire que c'est plus elle qui recevait les choses de l'extérieur, c'est elle qui donnait tous ses biens à ses ennemis. Une ville qui dominait est maintenant soumise. Elle avait été grande parmi les nations, grandement aimée par les uns et grandement redoutée par les autres et grandement obéie par les deux. Les uns lui faisaient des présents et les autres payaient ses impôts, de sorte qu'elle était vraiment princesse parmi les nations environnantes. Mais maintenant, les rôles sont inversés. Elle a non seulement perdu ses amis et est assise seule, mais elle a perdu sa liberté et est tributaire. Elle a rendu hommage à l'Égypte d'abord, puis à Babylone. Notez que le péché amène un peuple non seulement dans la solitude, mais aussi en esclavage. On parle de l'absolue tristesse et de l'absence des consolateurs. Si jamais, dans notre société, il arrivait une chose pareille, on est habitué d'avoir des personnes qui nous consolent, qui viennent nous taper dans le dos, faites-en pas, ça va revenir, puis qu'on n'aurait plus du tout, c'est ce que ça dit. Elle pleure durant la nuit, et les larmes couvrent ses joues. De tous ceux qu'elle aimait, aucun ne la console. Tous ses amis ont agi perfidement contre elle. Ils sont devenus ses ennemis. On s'imagine une ville comme ça, là, qui sont habitués de... Puis là, du jour au lendemain, puis personne... Ils voient le malheur, mais on dirait que le malheur, ça a un effet que tout le monde se pousse. Ils ne veulent pas participer à ça, ils ne veulent même pas l'avoir, puis ils ne veulent pas s'en mêler. Mais si jamais le Seigneur décidait d'envoyer un désastre dans notre nation à cause des péchés sociaux qui s'accumulent de plus en plus, et on voit que le système législatif, quand on suit un petit peu l'actualité, on voit que c'est pas les choses, ils s'en vont pas en votant des lois pour améliorer la situation. Ils votent des lois pour permettre que le péché se développe encore davantage et plus rapidement. Il y a quelque chose là-dedans. Le Seigneur, c'est sûr qu'il est très patient. Une chance qu'il est patient. Mais il reste qu'il y a une limite. Il y a toujours une limite. Quand on regarde l'Ancien Testament, on lit l'Ancien Testament, Dieu, avec son peuple, a toujours été d'une extrême patience. Dieu est encore d'une extrême patience envers la société, malgré les innombrables péchés qui s'en vont de plus en plus en s'aggravant. Mais il ne faut pas penser, ah ben ça c'est à la faute des païens, ça ne me regarde pas. On vit dans cette société-là. On a notre rôle à jouer. La question à se poser, c'est, est-ce qu'on le joue, le rôle qu'on est censé jouer? Ou est-ce qu'on le joue avec assez de fidélité, assez d'intensité, pour que le gouvernement se rende compte, oh, le peuple ne veut pas ça. Il y a un temps qu'on s'endort, qu'on pense qu'il n'y a rien à faire, on accepte la situation, et là-dedans, c'est là notre culpabilité. Notre culpabilité, c'est de se rendre compte qu'on a un rôle là-dedans à jouer, peut-être par la prière, ou peut-être par l'activité sociale, plein de moyens qu'on pourrait utiliser. Mais à se poser la question, est-ce qu'actuellement vous sentez que les églises de Jésus-Christ, ceux que vous connaissez puisque vous entendez parler par les médias, est-ce que les églises sont dans un état tel qu'ils combattent ce qui se passe par le gouvernement, les actions qu'ils font, on leur démontre-tu avec autant d'intensité qu'on se devrait de leur montrer ce qu'ils vivent, de ce qu'ils sont en train de préparer comme société? On le voit de plus en plus. Des fois, on en parle, on s'assoit. Le matin, c'est notre café, on prend notre café, on se met à jaser des fois la situation. Ça va-tu arrêter? Tu sais, toutes les folies qu'on entend, on pourrait en nommer une multitude. Mais nous, on fait quoi? Est-ce qu'on fait au moins du travail de genoux? Du travail de prière? Est-ce qu'on est tant préoccupé par la situation et sa gravité que ça nous emmène à la prière? Seigneur, fais quoi? Ça n'a plus de bon sens. C'est là qu'on est rendu. Seigneur, faites quoi? Ça n'a plus de bon sens. Et on est là, on a hâte que le Seigneur revienne. Moi, quand j'entends parler, le Seigneur revient bientôt. Amen. Reviens, Seigneur, ben ça sent bien, ça fait dur, pas à peu près. Alors, l'exil, aussi, il y a l'absence des consolateurs, mais aussi l'exil. Judas s'est exilé devant l'affliction et la grandeur de ses servitudes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous êtes dans une ville, et quand ces choses-là arrivent, tout est détruit, tu dis, ben, moi, je m'en vais là, mais je reste pas ici, je m'en vais, je me pousse. C'est ça que le peuple faisait. Puis plus que le peuple se poussait, plus tu voyais la désolation autour de toi, plus tu venais découragé. Il n'y a plus d'adorateurs qui viennent
à Jérusalem,
si nous, il fermerait les églises en Sherbrooke, lui disons, toutes les églises au complet, dimanche matin, on n'a plus aucun endroit où on peut aller. On commencera à sentir un petit peu ça.
Alors, l'exil, c'est ça. Peu importe
où qu'ils vont se pousser,
c'est ça que la deuxième partie du verset 3 dit. Ils demeurent au milieu des nations et ils n'y trouvent aucun repos.
Point de repos.
C'est que même si une chose pareille permet, Dieu permettrait qu'une chose pareille arrive dans notre pays, on dirait, ah ben c'est pas grave, je m'en vais aux États, je m'en vais ailleurs, je souffrirai pas ça. Ben ça va te rejoindre pareil. Va te rejoindre l'endroit où tu cherches à aller chercher ton repos, et il te donnera pas du repos. C'est ça que ça dit. Il demeure au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Deuxième idée, versets 4 à 8. La misère de son désespoir, de son exil et de sa captivité. La ruine de leurs intérêts et leurs valeurs spirituelles et qui sont sacrées est beaucoup plus grave et plus déplorable et plus souffrante que celle de leurs intérêts profanes. On l'a vu dans les versets 1 à 3, ce sont tous des affaires politiques, des affaires civiles, des affaires sociales. Mais là, à partir du verset 4, on voit qu'il y a comme un chiffre. Ils s'en vont plus vers leur détresse va être plus grande à cause de toutes les choses de nature spirituelle qu'ils vont connaître, qu'ils vont expérimenter. Alors, on dit dans les versets 4, alors ici, on rentre vraiment dans les malheurs du peuple de Dieu face au domaine spirituel, au domaine du culte et au domaine de la religion biblique. Au début, c'est « Ok, on voit tous les murs à terre, tout est à terre, les gens s'en vont, on est découragés, ça sent le feu. » Mais là, ils sont en train de se rendre compte du côté spirituel. Qu'est-ce que ça va apporter dans leur vie spirituelle? Dans le verset 4, ça dit « Les chemins de Sion sont dans le deuil. » Les chemins de Sion, c'était les chemins qui menaient vers Jérusalem. Eux, à chaque année, et à des périodes fixes, le peuple montait vers Jérusalem. Et ça créait de la joie, ça créait du plaisir de voir les gens arriver dans Jérusalem dans le but d'adorer. Ils disent « C'est fini ça. On n'en voit plus de monde venir à Jérusalem pour adorer. » Et ça dit aussi « Car personne ne vient plus aux fêtes solennelles. » On sait que Jérusalem avait plein de fêtes au cours de l'année pour des raisons particulières, pour évoquer des choses particulières avec leur passé, avec leur histoire religieuse. Le monde ne vient plus. C'est comme si aujourd'hui on dirait « Il n'y a plus de Noël, il n'y a plus de Pâques, il n'y a plus rien. Plus rien, c'est fini. » Les fêtes solennelles, c'est fini. Il dit, toutes ces portes sont désertes. Les portes des villes, à cette époque-là, c'était l'endroit où il y avait de la vie sociale, où il y avait de la vie culturelle, où il y avait de la vie juridique. On suivait les contrats, ce venait là. Là, il dit, ces portes, c'est fini. Moi, j'avoue, quand j'ai ressorti ça la première fois, l'équivalent de ça, c'était quand ça a commencé, la COVID, en 2019. J'étais à Lac-Mégantic. Maintenant, je dis à ma femme, on va se prendre une marche. On est allé prendre une marche, on est allé dans le quartier Saint-Papineau. C'était désert, mais désert. J'avais l'impression que je disais, écoute, y a-tu une bombe atomique qui est tombée sur la ville? Il n'y avait pas un chat. Un peu de temps que je voyais dans la vie, pas un chat sur la rue. On aurait dit que le monde allait se cacher. Mais ça nous donne une petite idée de comment ces gens-là pouvaient vivre. Toute la vie religieuse, tout le côté riche de la vie religieuse, des cultes, tout ça, c'est en train de disparaître. Puis toutes les fêtes qu'on avait avant, là, ben il n'y a plus. C'est fini. Imaginez-vous, en plus de voir le désastre physique, tu vois le désastre spirituel. Les gens n'ont plus au culte, ils ne viennent plus à l'assemblée. Il y a quelque chose qui te fait tomber deux bras. Là. Et là, on voit que, dans le verset 4, c'est vraiment la disparition de l'esprit festif. Jérusalem était le centre religieux de la nation. C'est là que les tribus montaient pour se présenter devant l'Éternel. Il y avait des grandes assemblées, des fêtes joyeuses, et ça se tenait toujours au au profit de tous les Juifs. Mais après la destruction babylonienne, tout cela fut suspendu. Il est habitué de voir toute cette joie, de voir les gens venir adorer à Jérusalem, de voir la vie fourmiller à Jérusalem, mais là, il n'y a plus rien. Ça devait être quelque chose. Personne ne venait plus aux fêtes solennelles. Les grands chemins qui autrefois étaient remplis de pèlerins pleurent le manque de voyageurs. Les portes par lesquelles les gens se pressaient, sont inutilisées. Les prêtres, les sacrificateurs de l'époque, soupirent de lassitude et de détresse, n'ayant pas d'offrande joyeuse à présenter. Les vierges qui dirigeaient le chant et la danse à l'honneur de Dieu sont frappées d'affliction. À cette époque-là, c'étaient les vierges qui avaient une fonction de chanter et de rendre les fêtes encore plus joyeuses. C'est-à-dire, on voit souvent dans les Écritures, les vierges. Là, il dit non, les vierges, c'est fini. Bon. Dans le verset 14, ça dit « Les chemins de Sion sont dans le deuil ». Un petit peu plus loin, ça dit « Personne ne vient plus aux fêtes solennelles ». Toutes ces portes sont désertes. Ces sacrificateurs gémissent. Ça, c'est comme si tu dirais à Sherbrooke, là, peu importe à l'église que tu vas voir, les pasteurs sont en train de chioler, puis de brailler, puis s'apitoyer sur eux-mêmes. Ça sera pas drôle, là. On n'a jamais vu ça. Ça dit, ces vierges sont désolées. Ça, c'est le rôle des vierges. C'est vraiment, dans les fêtes, eux s'occupaient de musique, s'occupaient du chant. Et là, tu vois que toute cette chose-là qui était du bonheur, de la joie, tu n'en vois plus. Et ça dit, la dernière partie du verset 4, elle est remplie d'amertume. L'amertume, c'est quand c'est amer. Si on veut te donner un sirop, puis tu sais que c'est... Moi, c'est bien, ma mère nous en donnait, on va te donner. Tu vas prendre ça, oh non, pas ça, c'est méchant, c'est ta mère. Alors la situation sociale, la situation économique, la situation religieuse était rendue telle que c'était vraiment amer. Alors les ennemis, dans le verset 5 et 6, triomphent, car Dieu lui-même a jugé les graves péchés de son peuple. Dans le verset 5 et 6, ça, là, c'est très important. Parce que ça dit, ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix. Ça dit pas car les ennemis l'ont humilié. Ça dit car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Là, on vient de savoir pourquoi tout cela est arrivé. Est arrivé à cause de la multitude des péchés du peuple de Dieu. Ça dit pas à cause des péchés des nations. Ça dit à cause du péché du peuple de Dieu. Si on lit un texte semblable, dans n'importe quel livre d'ailleurs, quand on lit un texte, on entend des sermons sur quelque chose. Si on ne tient pas compte de ce que Dieu est en train de nous dire, il est en train de nous dire, faites attention à ne pas laisser les péchés sociaux aller trop loin. Parce qu'un jour, quand mon jugement va tomber, même si tu étais averti, il va tomber, il va être une gravité telle que là, tu vas en pleurer une choc, comme on dit. Il dit, tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité, elle-même soupire et détourne la face. On voit le... juste pour vous donner un autre passage dans Jérémie, au chapitre 30, et versets 14 à 15, pour nous montrer que la main divine est souvent dans ces jours-là. Je ne dirais pas souvent, je dirais toujours. Quand il arrive des malheurs sociaux, peu importe le pays, la main divine est toujours à l'intérieur de ça. Ça a toujours une relation avec le péché qui a été vécu dans ça. Dans Jérémie 30, versets 14 et 15, c'est « Tous ceux qui l'aimaient t'oublient. Aucun ne prend soin de toi, car je t'ai frappé. » Ici, c'est à remarquer, là, c'est pas « les nations t'ont frappé ». Le Seigneur parle et dit « Je t'ai frappé. » Comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur, il nomme les raisons. Puis il dit pas que c'est les ennemis qui vont te faire vivre ça. Je. Alors, tu sais, il y a un verset qui dit en Romains, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. Souvent, la sévérité, On est porté à vouloir pas trop la regarder, parce qu'on ne fait pas pour vivre ça. Mais il dit bien considérer les deux. C'est vrai que tu es bon. C'est vrai que tu es patient. Mais c'est vrai que quand la mesure est comblée, quand le jugement tombe, des fois il est sévère au-delà même de ce que t'es capable d'imaginer. Il dit, pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur qui cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait pour souffrir ces choses. Juste dans ce verset-là, il y a trois endroits, ça dit, je t'ai frappé, je t'ai châtié, je t'ai fait souffrir ces choses. Alors, imaginons-nous pas que lorsque Dieu juge une société, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je suis quand même assez vieux, ma sœur est partie aux États-Unis, alors j'avais 15-16 ans. À ce temps-là, les États-Unis, c'était... tout le monde voulait aller là, tout le monde voulait aller là. Maintenant, moi, tu vas me dire, ben franchement, là, ils me paieraient pour aller vivre là, même à 10 000 piastres par mois, j'irai pas, sérieusement, là. J'irai pas parce que la société américaine est en train d'être sous le jugement de Dieu. La quantité de malheur qui se vit dans ce pays-là présentement est très, très grande. Mais imaginons-nous pas que, OK, ça va arriver justement aux Américains, ça peut nous arriver à nous aussi, le Seigneur peut permettre des multitudes de jugements qui vont nous faire bobo, comme on dit. Alors, le peuple de Dieu avait péché volontairement, délibérément et obstinément. Ils avaient pratiqué l'idolâtrie, l'amour de l'argent, les péchés de la chair et l'oppression. Leurs péchés les a rendus vils et odieux. La rétribution divine n'est pas un accident, ni la conséquence de lois naturelles. La providence divine supervise le tout et a un sens. Actuellement, un observateur de la société américaine du point de vue politique, social, économique, name it, éducationnel, n'importe quoi, regardez comment ils vont, ils sont en train de piquer du nez. Une nation que Dieu a bénie à cause de leur foi en Jésus-Christ, dans beaucoup de pays, on parle encore de la Bible Belt, mais la Bible Belt, ça commence à être louche pas mal. Ça s'en va, les États-Unis sont en train de vivre des jugements divins. Moi, je suis convaincu que c'est des jugements divins. Et nous, au Canada, je pense qu'on est sur le bord. On a peut-être commencé à les vivre un peu, mais je pense que ça peut aller plus loin. Qu'est-ce que la leçon vient nous dire? Fais attention. Ne pas toujours dire, ah, oh, je suis païen, je suis des païens. Les autres, ils font le Dieu. Mais nous, là-dedans, on n'est pas coupables. Donc, on attend le jugement de Dieu, mais nous, on fait même pas de travail qu'on pourrait faire facilement et qui n'est pas souffrant. Prends en compte, tu sais, quand vous regardez Daniel, par exemple, les prophètes de l'Ancien Testament, souvent, quand ils se rendaient compte de l'état du peuple, l'état social, politique, économique, ils se mettaient à genoux, puis ils confessaient pas leurs péchés nécessairement personnels, ils confessaient leurs péchés nationaux. Est-ce que nous, on se devrait pas de faire la même chose, de se rendre compte qu'il y a des péchés nationaux qui se font? Est-ce qu'on les confesse à Dieu? Tu te rends compte que tu fais partie de cette nation-là et que toi aussi, dans le fond, tu as une certaine culpabilité face à ça. Donc, la rétribution, c'est pas un accident, c'est pas la conséquence de lois naturelles. La providence divine supervise tout ça. Et tout ça a un sens. Si on regarde actuellement les États-Unis, quelqu'un qui regarde la situation aux États-Unis, on peut dire, ah, ben là, c'est en train de se détériorer. Oui, ça se détériore. Mais il faut pas oublier, c'est qui la main de celui qui fait que ça continue à se détériorer et que ça va se détériorer encore davantage. Tout ça, quand Dieu envoie un jugement comme ça, ça a un but. Et le but, c'est d'appeler le peuple à la repentance. C'est sûr que appeler la nation à la repentance, oui, mais appeler le peuple de Dieu à la repentance. Regardez, on a-tu une part de responsabilité là-dedans, oui ou non? Si on en a une, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu au moins du travail de genoux? On fait-tu au moins ça? Ou, si on peut faire plus, pourquoi on n'en ferait pas plus? Et il appelle à la repentance, ces actions-là, et à la nouveauté de vie. La repentance, ça veut dire abandonne ta vieille façon de vivre, vieille façon de penser. Maintenant, adopte la religion biblique, adopte ce que Dieu dit dans les Écritures. Obéis maintenant au Seigneur, obéis maintenant aux Saintes Écritures. Aujourd'hui, on va arrêter là. Je finirai ça la prochaine fois. Alors, moi, je veux juste faire une brève prière. Alors, Seigneur, Dieu permet qu'on ne demeure pas sourd à ce que tu nous enseignes. Si tu nous dis dans les Saintes Écritures que l'Ancien Testament nous a été donné pour notre instruction, permet qu'on reçoive de l'instruction ce matin. Et si ça dit aussi que les choses qui sont dans l'Ancien Testament nous sont données pour nous servir d'exemple, retenons aussi, Seigneur, que ton jugement peut être sévère et qu'on se devrait de te demander avec humilité, Seigneur, quelle part est-ce que je joue là-dedans, même si parfois on est porté à ne s'attribuer aucune part, on en a certainement une. Sonde-nous, Seigneur, et montre-nous nos manquements et permets qu'on s'ajuste et qu'on se dirige vers la repentance et vers le changement de vie tel que tu nous le commandes. Je te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Je salue.
Tu salues.